7. Madame Sixby attendait Stackhouse au niveau F. Il y faisait froid et elle avait enfilé un pull par-dessus sa veste de tailleur. Elle l'accueillit par un hochement de tête. Stackhouse répondit de la même manière et poussa le chariot dans le tunnel qui reliait l'avant à l'arrière. Parfaite incarnation de l'adjectif utilitaire avec son sol en béton, ses parois incurvées et carrelées et ses barres de néon au plafond, dont certaines bégayaient, ce qui donnait à ce souterrain un parfum de film d'horreur. D'autres étaient carrément mortes. Quelqu'un avait appliqué un autocollant des New England Patriots sur un mur. Encore et toujours la négligence, pensa-t-elle. Le laisser aller. Sur la porte de l'arrière, à l'extrémité du passage, une pancarte indiquait « Accès interdit au personnel non autorisé ». Madame Sixby se servit de sa carte magnétique pour l'ouvrir. Derrière, un petit hall abritait un ascenseur. Une brève montée les conduisit dans un salon à peine plus engageant que le tunnel qu'ils avaient emprunté pour atteindre l'arrière. Haeckel, le docteur Everett Alas, de son vrai nom, les attendait. Il arborait un grand sourire et ne cessait de tripoter le coin de sa bouche. Madame Sixby repensa au jeune Dixon et à sa manie de se pincer le nez. Mais Dixon était encore un enfant et Alas un quinquagénaire. Travailler à l'arrière laissait des séquelles. On avait l'impression d'évoluer dans un environnement pollué par un faible taux de radiation. « Bonjour, Madame Sixby. Bonjour, chef de la sécurité Stackhouse. Quelle joie de vous accueillir. Nous devrions nous voir plus souvent, même si forcément je regrette les circonstances qui vous amènent ici aujourd'hui. » Il se pencha au-dessus du chariot pour tapoter la bâche qui enveloppait le cadavre de Maureen Halvorson. Puis il porta la main à la commissure de sa bouche, comme s'il palpait un bouton de fièvre qu'il était le seul à sentir et à voir. « Dans la fleur de l'âge, etc., etc. »« Il faut faire vite, » dit Stackhouse. Ce qui signifiait, supposa Madame Sixby, « Je veux foutre le camp d'ici. » Elle partageait cet avis. Car c'était à l'arrière que le véritable travail était effectué. Et même si les docteurs Haeckel et Jekyll, de son vrai nom Joan James, méritaient le titre de héros, ce n'était jamais agréable de visiter ce lieu. Elle se sentait déjà pénétrée par l'atmosphère qui y régnait, comme si elle se trouvait à l'intérieur d'un champ électrique. « Oui, bien sûr, » dit Haeckel. « C'est un travail sans fin, au rouage secret. Les petites puces mordent les grosses. Je connais bien ça, suivez-moi. » Ils quittèrent le salon avec ses fauteuils hideux, son canapé qui l'était tout autant et son téléviseur à écran vieillot, pour pénétrer dans un couloir à l'épaisse moquette bleue. À l'arrière, les enfants chutaient parfois et cognaient leurs précieuses petites têtes. Les roues du chariot laissaient des sillons dans les fibres. Ce couloir ressemblait fortement à ceux de la résidence de l'avant, à l'exception des serrures sur les portes, toutes fermées. Et à travers l'une d'elles, Madame Sixby entendit des bruits de coups et des cris étouffés.
« Laissez-moi sortir! Donnez-moi un putain de cachet d'aspirine au moins !»«
Iris Stanhope, » dit Haeckel. Elle ne se sent pas dans son assiette, hélas. En revanche, plusieurs de nos nouveaux arrivants se portent remarquablement bien. Ce soir, on passe un film. Et demain, feu d'artifice. »
Il gloussa en touchant le coin de sa bouche, et Madame Sixby songea, c'était grotesque, à Shirley Temple. Elle vérifia qu'elle n'était pas décoiffée. Non, évidemment. Ce qu'elle ressentait, ce bourdonnement sourd sur sa peau nue, l'impression que ses yeux vibraient à l'intérieur de leurs orbites, ce n'était pas de l'électricité. Ils passèrent devant la salle de projection avec sa dizaine de sièges confortables. Au premier rang étaient assis Kalisha Benson, Nick Wilholm et George Illes. Ils portaient leurs maillots de corps rouge et bleu. Benson tétait une cigarette en sucre, Wilholm en fumait une vraie, un nuage de fumée grise flottait autour de sa tête. Illes se massait doucement les tempes. Benson et Illes se retournèrent pour les regarder passer avec leur chargement. Wilholm, lui, garda les yeux fixés sur l'écran vide. Ce petit frimeur avait perdu une bonne part de son énergie, constata Madame Sixby avec satisfaction. La cafétéria se trouvait après la salle de projection de l'autre côté du couloir. Elle était beaucoup plus petite que le réfectoire de l'avant, même s'il y avait toujours plus d'enfants ici. Car plus ils restaient à l'arrière, moins ils mangeaient. Un diplômé en littérature parlerait sans doute d'ironie, songea Madame Sixby. Trois enfants s'y trouvaient. Deux d'entre eux engloutissaient bruyamment ce qui ressemblait à du porridge, tandis que le troisième, une fille d'une douzaine d'années, restait assis devant son bol sans y toucher. Quand la gamine les vit passer avec le chariot, son visage s'illumina.
« Salut, qu'est-ce que vous transportez? C'est un cadavre, hein? Elle s'appelait pas Maurice? Drôle de nom pour une fille. À moins que ça soit Maureen, je peux la voir? Elle a les yeux ouverts ?»«
C'est Donna, » précisa Ekel. « Ne faites pas attention à elle. Elle va assister à la projection de ce soir, mais je pense qu'ils vont bientôt la transférer. Dans le courant de la semaine, peut-être. Vert de pluie, vert pâturage, etc., etc. Vous voyez quoi ?»
Madame Sixby voyait très bien. Il y avait l'avant, il y avait l'arrière, et il y avait l'arrière de l'arrière, le terminus. Elle porta la main à ses cheveux encore une fois, ils étaient toujours en place, bien sûr. Elle pensa au tricycle qu'elle avait eu quand elle était petite, au jet d'urine chaude dans sa culotte pendant qu'elle dévalait l'allée. Elle pensa à des lacets cassés, à sa première voiture, à...
« C'était une Valium !»
s'écria la fille prénommée Donna. Elle se leva d'un bond, renversant sa chaise. Les deux autres enfants la regardèrent d'un air morne, du porridge dégoulinait sur leur menton.
« Une Plymouth Valium, je le sais. Oh bon sang, je veux rentrer chez moi. Oh Seigneur, ma tête !»
Deux intendants en uniforme rouge surgirent de... Madame Sixby ne savait pas d'où, et elle s'en fichait. Ils saisirent la fille par les bras.
« Ramenez-la dans sa chambre, » ordonna Ekel. « Mais pas de pilule. On a besoin d'elle ce soir. »
Donna Gibson, qui avait partagé autrefois des secrets de fille avec Kalisha quand elles étaient encore toutes les deux à l'avant, se mit à hurler et à se débattre. Les deux intendants l'entraînèrent. Les pointes de ses baskets raclaient la moquette. Les pensées éparses qui occupaient l'esprit de Madame Sixby s'atténuèrent, puis disparurent. Mais le bourdonnement sur sa peau, et même dans les plombages de ses dents, persista. Il était constant à cet endroit, comme le bourdonnement des néons dans le couloir.
Tout va bien ? Interrogea Stackhouse.
Oui.
Faites-moi sortir d'ici, c'est tout. Je ressens la même chose, si ça peut vous rassurer. Non.
Trevor, pouvez-vous m'expliquer pourquoi des corps destinés au crématorium doivent passer devant ces enfants ?
Il y a des tonnes de haricots à Haricotville, répondit Stackhouse.
Hein ? Qu'avez-vous dit ?
Stackhouse secoua la tête comme pour mettre de l'ordre dans ses pensées.
Désolé. Ça m'est venu comme ça.
Oui, dit le docteur Alas.
Aujourd'hui, il y a dans l'atmosphère beaucoup de transmission en liberté, dirons-nous. Je sais d'où ça venait, dit Stackhouse. Il fallait que ça sorte, voilà tout. J'avais l'impression de...
D'étouffer avec de la nourriture, dit le docteur Alas d'un ton détaché. Pour répondre à votre question, Madame Sixby,
nul ne le sait.
Il tripota le coin de sa bouche. « Sortez-moi d'ici, » pensa-t-elle. « Où est le docteur James ?»«
Dans ses appartements. »« Elle ne se sent pas au top aujourd'hui, malheureusement, mais elle vous salue. Elle espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous pétez le feu, etc., etc. »
Il sourit et refit sa mimique à la Shirley Temple. « Ne suis-je pas mignonne ?»